débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. Actualité économique du jour, 66 ans et demi en 2070. La recommandation en page 109 du rapport du COR dévoilé par le Figaro. C'est pas mal de réussir à donner un chiffre aussi précis avec une date aussi lointaine. Mais bon, en tout cas, l'idée générale est que le levier qui n'est pas récessif parmi tous les leviers disponibles pour remettre à plat le système des retraites est bien celui de travailler davantage, travailler plus longtemps. Alors ça peut être l'âge de départ à la retraite ou encore le nombre d'années de cotisation. Amélie de Montchalin a accordé un grand entretien au JDD. On a envie de lui dire banco sur toute la donne concernant le budget 2026. Tout est frappé du bon sens, elle est super cash sur tous les sujets. Vous allez voir, on va faire exactement ce qu'on a dit. Il n'y aura pas une salve d'impôts incroyable. On va supprimer des agences, supprimer des opérateurs d'État, freiner la masse salariale de la fonction publique. Voilà. On va faire de la politique de l'offre. Hors de question de la remettre en question, cette politique de l'offre. Les niches fiscales, oui, certaines évidemment seront taillées ici et là, mais on baissera les impôts correspondant à ces niches fiscales, dit-elle. Waouh, moi je dis banco, allons-y. En tout cas, elle met en garde contre l'état global des finances publiques du pays, avec, dit-elle, le risque un jour de voir le FMI à Paris. Grand mythe du FMI à Paris. On dira un mot d'année blanche. Monsieur Moscovici, pour la Cour des comptes, n'est pas favorable à l'année blanche. C'est one shot, dit-il. Vous faites une année blanche et l'année d'après, que faites-vous? Et puis, une étude de BPI France sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les PME. On fera un petit bilan pour terminer. Un an après la dissolution, jour pour jour, qu'est-ce que nous avons vécu? Le choc n'a-t-il pas été plus politique qu'économique? Bonjour Isabelle Bordry.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, fondatrice de Retency, un éditeur de logiciels de protection des consommateurs. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié les nouvelles leçons d'histoire économique, dette, inflation, transition énergétique, travail, chez Odile Jacob. Je reviens dans un instant sur la soirée de ce soir. Bonjour Philippe Mutrici.
Bonjour.
Il est directeur des études de BPI France et donc vous êtes venu avec une étude de BPI sur l'intelligence artificielle et les PME. Vous avez, je crois, aussi des éléments sur le budget.
Sur le budget et puis surtout sur l'impact de la dissolution.
À l'impact de la dissolution. Théâtre de poche, again, tous les lundis, 21h. À quoi faut-il s'attendre en économie? Causerie, pensée et interprétée par Jean-Marc Daniel.
Absolument, oui, j'invite des gens à venir. Ce soir, il y a encore de la place, c'est le lundi de Pentecôte. Pour les autres lundis, il y a aussi de la place, mais il faut quand même se précipiter. De toute façon, il faut se précipiter. Et puis, on commence avec Rousseau, Sandrine et Jean-Jacques, et on finit avec quelques conseils pratiques.
Il y en a pour un mois à peu près. Hein.
Oui, ça durera jusqu'au 7 juillet. Le théâtre de poche ferme le 13 juillet. Puis voilà. Après, il y aura une nouvelle saison où le théâtre de poche prendra sa vie avec d'autres théâtres. Il n'y a pas que des leçons d'économie.
Vous n'avez pas prévu de reprendre en septembre?
Non, pas en septembre. On verra. On fera le point, mais pas en septembre.
Il y aura quand même eu au moins 3 mois.
Hein. Absolument.
Bon. Ce soir, donc, c'est à 21h au théâtre de poche à Paris. C'est boulevard du Montparnasse, pratiquement à l'angle avec la rue de Rennes. Jean-Marc Daniel sur scène. Je vais commencer avec vous, Jean-Marc. Le COR, alors, j'ai pris ce matin la défense de la CGT. Parce que, on me dit, ah bon, la CGT a claqué la porte du conclave. Enfin, on a demandé aux partenaires sociaux, il y a des mois, sans tabou, on remet tout à plat. Système de retraite. Et on leur sort globalement la messe édite une semaine avant la fin. Enfin, de qui se moque-t-on? Non, objectivement, de qui c'est pas la peine que les gens se réunissent pendant des heures et des heures avec des réunions jusqu'au 17 juin pour clore finalement la partie dialogue social avec un rapport qui met fin à tout débat.
Oui, je suis assez d'accord avec cette défense de la CGT, même si...
Non, mais la CFDT aussi, mais voilà, c'était pour provoquer...
Ça me perturbe profondément, mais effectivement, il y a une question de forme. Sur le fond, après, la CGT a des positions que je ne partage pas, mais sur la forme, c'est effectivement à la fois discourtois et inélégant, et ça décrédibilise toute cette opération de conclave. Ça lui donne d'ailleurs sa vraie dimension, c'est-à-dire il s'agissait de gagner du temps pour essayer de faire en sorte de ne pas avoir à prendre de décision. Alors, on peut considérer, on en reparlera avec la dissolution, que, en fait, notre Premier ministre est un héritier direct de la 4e République. Il a tenu plus longtemps qu'un président du Conseil de la 4e République. La moyenne, c'était 6 mois. Il a tenu ces 6 mois, et la technique, c'était le président Henri Queuil qui l'avait énoncé. C'est-à-dire, il s'agit de ne prendre aucune décision, il s'agit de ne jamais se positionner. Et puis, Clémenceau le disait, dès qu'on veut enterrer un problème, on crée une commission, et puis c'est réglé. Bon. Donc, il est véritablement l'héritier de la tradition républicaine à l'ancienne. Alors, après, sur le fond, moi, ce qui me frappe...
Je rappelle les préconisations. Alors, juste, Jean-Marc, pour que quand même on soit précis. Donc, sur les éléments budgétaires, ils anticipent un déficit deux fois moins élevé en 2030 que prévu, plus à 0,4 du PIB, mais à 0,2, ce qui ferait un peu plus de 6,5 milliards d'euros. Mais un déficit à 1,4% du PIB en 2070. Bon, pas facile d'estimer le PIB de 2070. Mais donc, en tout cas, la trajectoire, si rien n'est fait, est déclinante en termes de financement. Et donc, la préconisation, c'est qu'il faut aller à 64,3 en 2030, à 65,9, pratiquement 66 en 2045, et 66 ans et demi en 2070 en termes d'âge légal.
Oui, alors 2070, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de paramètres qui vont jouer. Donc, il y a la croissance avec la productivité. Il y a aussi l'évolution démographique. C'est-à-dire qu'on est quand même, les gens qui travailleront en 2070, c'est des gens qui seront nés par, qui rentreront sur le marché du travail, seront nés en 2050. On ne sait pas combien il va naître de gens en 2050. On voit qu'il y a plutôt une évolution de la fécondité qui est plus alarmante que ce qu'on avait anticipé. Donc là, il y a des hypothèses sur ce paramètre-là qui sont plus difficiles à faire.
Sinon, travailler plus.
Voilà. Alors moi, ce qui me frappe pour conclure, c'est quand même qu'il y a une sorte... Alors, contrairement à ce que dit la CGT, il commence à y avoir une prise de conscience que ce dont manque le pays, c'est de travail.
Ça, c'est juste.
De quantité de travail. Et donc, je permettrai, même si j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour eux, de souligner les évolutions de deux personnages clés. Donc, Gilbert Sept, qui est à la tête du corps et qui était le principal conseiller de Martine Aubry dans l'opération des 35 heures. Donc, manifestement, il a compris qu'on manquait de travail et que les 35 heures, c'était pas forcément une idée de génie. Ce qu'avait d'ailleurs dit le président de la République quand il était ministre de l'économie dans un discours célèbre où il disait ce n'est pas en diminuant la quantité de travail qu'on améliore le bien-être d'une société.
Donc, je vous confirme que Gilbert Sept aujourd'hui est un chantre du travailler plus et de l'augmentation du taux d'emploi. Et quand donc, il a effectivement clairement changé d'avis.
Et quand un autre gouverneur de la Banque de France qui dit aussi...
François Villeroy de Galloz
qui dit aussi qu'il faut travailler plus, il était le bras droit de Dominique Strauss-Kahn qui est le promoteur, le défenseur dans les années 90 des 35 heures.
Donc, alors il était plus lui sur le terrain un peu stratégico-politique que vraiment metteur en scène.
Oui. Chez Dominique Strauss-Kahn, il y avait une forme d'habileté, c'était une façon de se rapprocher de Mitterrand qui avait dit on a tout essayé mais on n'a pas essayé la baisse du temps de travail. Donc il avait dit oui. Donc contre le chômage, on peut essayer la baisse du temps de travail, sachant que tout le monde sait d'expérience et de réflexion que ce n'est pas en réduisant la quantité de travail qu'on résout le chômage.
Comment vous réagissez? Alors Isabelle Philippe, allez-y, Philippe, commencez. Alors c'est vrai que le rapport du corps a fuité, tout ça n'est pas totalement encore tamponné, validé, mais enfin on voit bien l'état d'esprit du travailler plus qui n'était d'ailleurs pas une surprise.
Moi j'aurais juste un commentaire très bref.
Allez-y.
Et par rapport à Jean-Marc Daniel qui cite la quatrième, je crois qu'un autre homme politique, ou peut-être était-ce le même, qui disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'une absence de solution...
Oui, c'est Henri Cueil qui disait ça.
C'était bien le même. Hein.
Oui, voilà. C'est Henri Cueil.
Qu'une absence de solution ne finisse pas résoudre. Mais ce n'est pas le cas pour les retraites. L'absence de solution sur les retraites ne résoudra pas le problème. Bref, je ne commente pas du tout le côté calendrier, est-ce que le corps doit sortir un rapport maintenant ou pas. Là, je dirais que c'est un petit peu plus politique. Ce qui me frappe surtout, c'est cette obstination sur la mesure d'âge. Et je pense qu'en fait, il y a plusieurs solutions à mettre en œuvre. Il n'y en aura certainement pas une unique qui résoudra tout. En revanche, c'est vrai que sur la mesure d'âge, quand on compare avec les autres pays, on est l'un des derniers à être resté à 62, puis maintenant 64, on y va difficilement. La plupart des pays en Europe sont à 65, voire 67.
Clairement, mais la borne d'âge est devenue le marqueur politique. Alors certains considèrent qu'on pourrait utiliser la durée de cotisation, qui provoque toujours moins d'émotions, mais qui n'a pas les mêmes effets immédiats en termes d'équilibre comptable du système. Isabelle Borderie.
Moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est l'aspect démographique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres depuis maintenant 50 ans, le nombre de retraités a multiplié par 5, et la population active a un petit peu progressé, mais pas tant que ça. Et il semblerait qu'effectivement, en 2070, qui est le chiffre qui ressortait du contrat, la démographie va véritablement baisser et donc le nombre d'actifs va largement diminuer. Donc, face à ces chiffres...
Il faut les rappeler, Isabelle. Ils sont têtus.
Les gens continuent à... alors, ceux qui changent d'avis, je pense que ce sont des gens intelligents. On dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc c'est formidable. Mais les chiffres sont quand même têtus et le manque de décision des uns et des autres va effectivement nous mettre dans la difficulté.
Bon, il faut rappeler que le corps ne prend pas de décision, il fait des recommandations, c'est un choix politique. En tout cas, votre ami Gilbert Sept, il est quand même maintenant recta. Hein. Il dit oui, il faut reculer l'âge de départ à la retraite. Il dit qu'il faut supprimer l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités qui sont imposables à l'impôt sur le revenu. Et il défend même le principe de la TVA sociale, mais sur la partie cotisation payée par les employeurs de manière à baisser le coût du travail et améliorer la compétitivité.
Mais je pense qu'il n'y a que ça.
Il n'y a que ça quoi ?
La TVA. Capitalisation et TVA sociale.
Alors, capitalisation, là aussi, c'est beaucoup moins tabou que ça ne l'a aidé, la capitalisation. Il y aura probablement des éléments dans le conclave. Sur l'histoire de transférer une partie de la facture de la protection sociale sur autre chose, comme disait Éric Lombard la semaine dernière, vous considérez que c'est la seule solution, Isabelle ?
En tous les cas, c'est une solution. On ne va pas résoudre avec une recette, mais je pense que c'est plusieurs choses qu'il va falloir bouger. Donc, il y a forcément l'âge, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi la méthode de répartition qui, aujourd'hui, atteint ses limites.
Croyez qu'elle a atteint ses limites, la méthode de répartition, Jean-Marc ? Parce que c'est vrai qu'on est quasiment retraité pour un actif dans la fonction publique et on est à 1,7 actif globalement par rapport aux retraités.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit en changeant les tuyaux qu'on résoudra le problème, c'est en augmentant la richesse. Et donc, pour augmenter la richesse, je pense qu'il faut travailler davantage. Quant à la TVA sociale, moi, je suis radicalement contre. Je pense que
raison principalement
Ça fait 30 ans que l'État s'est emparé de la gestion de la sécurité sociale. C'était en 1995. Et donc, avec un discours qui était clair, moi, je vais gérer ça sérieusement. Or, depuis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas arrêté de modifier le contexte de rémunération du travail, en baissant les cotisations sociales, en transférant tantôt sur l'État, tantôt sur la CSG, en modifiant complètement la réalité. Et il a créé ce que j'appelle des faux droits, ce que Jacques Rueff appelait des faux droits. Derrière les cotisations sociales, tout le monde dit il y a le coût du travail, mais derrière les cotisations sociales, il y a ce que les gens achètent comme droit à se soigner et comme droit à avoir un revenu différé quand ils seront à la retraite. Et je pense que ça, il faut leur faire payer. Je suis d'accord, c'était ce que disaient d'ailleurs les assises de la sécurité sociale qui avaient débouché sur la CSG dans les années 80. C'était de dire, la CSG, on va la prendre pour payer la politique familiale, parce que ça, effectivement, on peut considérer que c'est quelque chose qui est un peu particulier dans la protection sociale. Mais en revanche, la santé et la retraite, c'est quelque chose qu'on achète et donc on doit le payer. C'est les gens qui l'achètent qui doivent le payer, parce que sinon on va dire, écoutez, quand vous avez un appartement, vous êtes aussi obligé d'acheter une assurance incendie. Et donc c'est un prélèvement obligatoire, vous ne pouvez pas y échapper. Donc il faut le faire payer par la TVA. Et puis quand vous avez une voiture, vous êtes obligé de payer une assurance aussi. Votre voiture, vous l'utilisez pour travailler, évidemment, donc on va la faire payer par la TVA. Non, je crois qu'il faut dire aux gens la réalité de ce que représente effectivement ce qu'ils achètent. Et si on considère que le travail n'est pas assez rémunéré, je rappelle quand même le grand principe de Pierre Gattaz.
Tout travail
mérite salaire, mais tout salaire réclame travail. Oui. C'est-à-dire que si on veut effectivement améliorer la condition et le niveau de vie des gens qui travaillent, il faut augmenter la quantité de travail.
Oui, mais est-ce qu'on n'est pas à un moment où on a un sujet de soutenabilité, Isabelle Bandry ?
Je suis complètement d'accord. Et déjà, il faudrait que les gens qui vont à l'hôpital, qui achètent des médicaments, comprennent le montant de ce que cela représente. Déjà, s'il y avait effectivement une transparence sur les coûts individuels de ce que coûte la santé, ça serait formidable. Mais je pense que ça ne suffira pas. Il faut effectivement augmenter le temps de travail. Il faut forcément plus d'actifs, ce qui est un sujet parce que ça touche à l'immigration et c'est un sujet extrêmement politique. Donc, il faut plus d'actifs. Et la population, on le souhaite tous, va vieillir plus longtemps et en meilleure santé. Donc, elle va continuer à coûter de plus en plus cher. Donc, il faut effectivement décaler, et c'est ce qu'a dit le corps, il faut augmenter la population d'actifs et il faut trouver d'autres sources de revenus.
On peut considérer, alors je suis d'accord que la TVA n'est pas la panacée et que changer la tuyauterie ne change pas la facture finale. Mais on peut considérer qu'on est arrivé à un moment où estimer finalement que la santé relève plus d'un bien universel et de la solidarité payée par l'impôt pourrait se défendre dans la mesure où la capacité à payer le modèle social par le travail est contrainte. On peut aller vers la CSG si on considère que la TVA n'est pas le bon outil. C'est la CFDT, ce serait plutôt CSG sociale.
Et puis encore une fois, il y a cette idée qui est une idée comme quoi le travail ne rémunère pas assez. Mais le travail, c'est le juste travail, on le sait depuis le Moyen-Âge, depuis saint Thomas d'Aquin. Le juste travail, c'est celui qui est issu de ce qu'on appelle la justice commutative. C'est-à-dire qu'il y a un marché, et c'est le marché qui détermine la bonne rémunération. Et donc, il y a des métiers qui sont en tension, donc augmentons les salaires. Il y a des métiers où, au contraire, effectivement, les gens doivent fournir un travail à hauteur du salaire. Quand je lis le rapport de la Cour des comptes sur les collectivités territoriales qui dit que si les salariés des collectivités territoriales faisaient les 35 heures, on pourrait supprimer 100 000 emplois... Je pense que effectivement la solution c'est pas la TVA sociale. Je pense que la solution est ailleurs. Et le travail, encore une fois, le travail, ça a rapporté non pas quand on a bidouillé les les tuyaux. Quand on a créé le SMIC, c'est une de mes grandes séances dans le spectacle du lundi soir, je rappelle que le SMIC a été créé à 3,30 francs de l'heure. C'était en 1970. Pourquoi 3,30 francs? Je rappelle, je ne vais pas faire mais une anecdote, c'est que le Premier ministre, c'était Jacques Chaban-Delmas, il avait une fourchette de montants possibles, et il a choisi 3,30 francs parce que ça fait 33 et qu'il était maire de Bordeaux.
Non, 33, c'est juste ça.
C'est ce qu'il a raconté. Non, mais il a raconté ça pour plaisanter. Il a dit.
C'était un homme plus intelligent, voilà, quand même.
Dommage. Donc c'était quelqu'un qui avait une certaine classe.
Jacques dommage qu'il n'ait pas été élu d'un
département. Les Bordelais sont des gens exceptionnels.
Mais vous imaginez le montant du SMIC s'il avait été élu d'un département à trois chiffres.
Exactement. La CGT avait dit c'est dommage qu'il ne soit pas maire d'Épinal.
Ben voilà.
Épinal, les Vosges, c'est 88. Et donc 3,30 francs. Bon. Donc, indépendamment de la plaisanterie et du trait d'esprit de Jacques Chaban-Delmas. Vous regardez, 3,30 francs, ça fait à l'heure actuelle en pouvoir d'achat 4,20 €. Et le SMIC est à 11,88 €. Oui, on a amélioré considérablement le destin des SMICards. Et comment on l'a fait? Pas en bidouillant les tuyaux, en faisant de la productivité.
La productivité. Mais il y a aussi des poids de prélèvement obligatoire qui font qu'il y a un écart entre le brut et le net qui n'est pas négligeable.
Oui,
et mais bon, alors, Isabelle, allez-y. Oui,
après, il y a une vraie question, c'est est-ce que l'État, aujourd'hui, dans son organisation, est capable d'opérer, de gérer les fonds des retraites aussi bien que ne pourrait le faire le privé?
Ça, c'est une bonne question.
Voilà. Et ça, je pense que
tant après
ça...
le plan Juppé, la réponse est là, à mon avis, non. L'État n'est pas capable. Mais enfin, ça, c'est une position assez radicale et personnelle.
Vous allez me dire qu'il faut des fonds de pension et de la capitalisation.
Oui.
Bon. Le truc, c'est qu'on sait que ça prend du temps, que c'est pas une recette miracle et qu'on ne fera jamais passer la pilule si on disait qu'on fait massivement de la capitalisation en effaçant massivement la répartition. Ce ne sera qu'une...
Pour faire un peu de tout.
Un peu de tout. Bon. Et vous avez vu que sur France Inter, Éric Lombard a dit qu'il n'était pas favorable à de la capitalisation obligatoire. C'était hier. Donc là encore, une fois, on y va pas, on sait pas trop. Travailler plus, augmenter le taux d'emploi, tout le monde est d'accord, c'est la solution. Bon. Mais vous savez, il y a un consensus qui pointe là-dessus, Jean-Marc.
Et oui.
De plus en plus. Et ce qui était inaudible il y a encore quelques temps. On pourrait d'ailleurs embrayer directement avec notre histoire de bilan de la dissolution, là, Philippe Mutrici. Après ce qu'on est en train de se raconter sur cette fenêtre de gain de temps colossal avec le conclave sur les retraites, ça fait pile un an là qu'il y a eu la dissolution. Vous en tirez quel bilan, vous ?
Il se trouve qu'avec notre partenaire Rexecode, on sort un baromètre tous les trimestres, un baromètre de conjoncture, dans lequel on a glissé en août de l'année dernière, juste après la dissolution, on a glissé une question sur l'impact de cette dissolution sur le moral des chefs d'entreprise. Mmh. Alors, pour être tout à fait précis, la question dit, est-ce que vous pensez que l'incertitude politique peut avoir un impact sur votre entreprise ? Et il y a plusieurs modalités de réponse, il y a non, pas du tout, oui, un peu, oui, beaucoup, et oui, absolument. Et en fait, on est depuis août 2024 à 90% qui disent redouter un impact sur l'entreprise.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui. Le dernier point de mesure, il date du mois d'avril. On est monté à 96% au début de l'année, au moment où il n'y avait pas de budget. Et là, depuis le vote du budget, ça a perdu 6 points.
Voilà. Donc on est quand même... 6 points ?
Oui. Et 8 points pour ceux qui se disent très inquiets, qui étaient à 62 ou 63%. Et qui maintenant sont à 54-55%. Mais on a quand même plus d'un chef d'entreprise dirigeant de TPE-PME qui se dit très inquiet sur son activité des conséquences de cette dissolution. Alors on a cherché à savoir ensuite, on a posé d'autres questions dans la dernière édition, on a mesuré ce risque franco-français avec d'autres risques. Le risque géopolitique, le risque Trump, enfin tous les risques que vous pouvez imaginer, le risque d'absence de demande, etc. Ce qui ressort en premier, c'est toujours le risque politique. Donc ce risque politique, il est avant tous les autres risques, et notamment avant le risque de la guerre commerciale, qui apparaît assez petit. Bon, après on se dira que les chefs d'entreprise français n'exportent pas beaucoup, et n'exportent pas beaucoup vers les États-Unis, mais il n'empêche que cette guerre commerciale fait quasiment pas peur aux dirigeants de TPE-PME, alors que le risque politique continue de le faire. Alors le mécanisme avec l'économie, corrélation n'est pas causalité, évidemment, mais on a quand même une corrélation apparente qui est très forte avec le taux d'investissement de ces entreprises qui s'est effondré depuis 2 ans. On était à plus de 56% début 2023, 56% des dirigeants de PME qui comptaient investir dans l'année. On n'est jamais à 100%. Hein. Le maximum, c'est 62% dans nos enquêtes avec Rexecode. Mais 56%, c'était plutôt un bon taux d'investissement. Et on est maintenant largement tous 50, on est à 44%. dans le dernier baromètre. Et donc, c'est le plus bas depuis que ce baromètre existe. Et je pense qu'il y a un lien évident avec cette préoccupation sur l'avenir, en se disant, mais finalement, est-ce que c'est le moment d'investir? J'ai oublié de mentionner que parmi les risques, en numéro 2, c'est la peur des prélèvements, en fait. Les chefs d'entreprise redoutent que pour trouver l'équation budgétaire, il faille augmenter les impôts, et notamment les impôts pesant sur les entreprises. D'où les déclarations récentes, ouais, d'ailleurs, du gouvernement, qui sont, je dirais, une réponse à cette inquiétude qui ne s'exprime pas que par nos enquêtes. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement une conséquence économique assez pernicieuse sur le manque de confiance dans l'avenir, cette espèce d'incertitude qui fait qu'on investit, on investit moins. Ça peut être que des reports, l'investissement, ça peut repartir très vite. Mais pour le moment, on est plutôt dans une phase d'attentisme qu'on a vu aussi d'ailleurs chez les ménages, cette espèce de comportement,
clairement, bah oui,
d'épargne, de précaution.
Évidemment.
Tout le monde attend de savoir combien il va falloir payer pour retrouver l'équilibre.
Je vous ferai réagir sur le bilan un an après la dissolution. On va marquer une pause, mais ce que vous me dites là, Philippe Mutrici, c'est en fait, quand on voit l'investissement qui flanche, c'est le vrai moteur de l'activité. C'est ce qui génère de l'activité dans un pays. La consommation, c'est une sorte de gros édredon qui porte perpétuellement le système, mais le moteur d'activité, c'est l'investissement. Et évidemment, ça peut décrocher très vite. Donc on voit qu'il y a eu un impact économique et qu'il est encore visible aujourd'hui. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Vous me direz si vous êtes très confiant depuis qu'Amélie de Montchalin a accordé une double page d'interview au JDD. Moi, j'ai lu ça hier, j'étais euphorique. Mais je me suis dit, bon, on va voir un peu ce qui va se passer derrière. Parce que je me souviens d'un certain Michel Barnier qui vous avait dit beaucoup de choses au début. Puis la copie à l'arrivée était un peu différente quand même. On marque une pause, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Isabelle Bordry, fondatrice de Ritensi, éditeur de logiciels de protection des consommateurs. Vos clients, ce sont les magasins, enfin ce sont les entreprises.
Les entreprises,
oui, absolument. Les entreprises. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié les nouvelles leçons d'histoire économique chez Odile Jacob, ce soir au théâtre de Poche, à Paris, à 21h. Et il reste des places, c'est exceptionnel.
Oui, ce soir,
il y a des places disponibles, c'est exceptionnel. Généralement,
il faut en profiter.
Voilà.
Il faut en profiter.
Généralement, c'est complètement...
Au mois de juin, il y a encore des places, mais ça se remplit. Mais donc là, ce soir, clairement, il y a eu des places.
Philippe Mutrici, qui est directeur des études de BPI France. Pas mal de réactions. Je vous trouve injuste, écrit cet auditeur sur le rapport du COR, dont les conclusions seront discutées cette semaine. C'est vrai que tout n'a pas encore une fois été estampillé, tamponné, mais qui ne dit rien de plus que ce que la Cour des comptes a déjà dit, ce que beaucoup ont déjà dit, on est bien d'accord. Autre réaction, comment voulez-vous qu'un homme politique qui ne se soucie que de sa prochaine élection prenne des décisions dont les résultats seront effectifs en 2070. Ah. Et puis alors, il y a cet auditeur qui me dit, Jean-Marc Daniel a oublié de mentionner qu'un seul SMIC permettait il y a 30 ans à une famille de se loger. Qu'est-ce qu'on lui répond?
Alors effectivement, c'est pas faux, c'est un des grands débats, simplement se loger, ça dépend où. C'est-à-dire qu'il y a quand même des endroits où maintenant on peut se loger pour pas cher. Et donc la question qui se pose, c'est effectivement...
Il y a des endroits où on peut se loger pour... Pas cher, oui.
Ah oui, absolument.
Ah bon?
À Bordeaux, peut-être?
Non, à Bordeaux, c'est cher, mais on peut se loger. Donc, je vais pas faire la liste des villes. Moi, j'ai fait juste un exemple. J'ai fait mon stage ouvrier, c'était quand je faisais mes études d'ingénieur, à Saint-Étienne, dans les mines. Et je peux vous dire que le prix du mètre carré à l'époque était vécu comme étant relativement comparable à celui de Lyon. Et maintenant, vous regardez combien c'est à Saint-Étienne. Et donc, il y a un problème, effectivement, dans le logement, qui est un problème de concentration, répartition de la population, métropolisation de la population. C'est un problème qui dépasse, je pense, le simple niveau de vie. C'est-à-dire, il y a un problème aussi des conséquences sur l'environnement de cette métropolisation. Et donc là, il y a une vraie politique à mener, mais simplement, quand vous regardez quand même avec 3,30 francs le pouvoir d'achat qu'on avait, un exemple que je prends et puis je vais conclure là-dessus, c'est que le litre d'essence était à 1,10 francs. C'est-à-dire qu'avec une heure de SMIC, on achetait 3 litres d'essence. Je peux vous dire que si c'était le cas aujourd'hui, avec une heure de SMIC, on arriverait à ces 4 euros que je brandis régulièrement.
Ah, les 4 euros le litre.
Les 4 euros le litre d'essence, et à 2 euros, le pays ne supporte pas. Il est étouffé.
La grande idée de Jean-Marc, c'est que le litre d'essence doit passer à 4 euros.
Oui, oui. Alors,
je pense que c'est très peu. Vous vouliez réagir sur ce que disait Jean-Marc Daniel à l'instant,
Isabelle Bordry? Oui, c'était sur la politique de logement, parce que c'est effectivement le serpent de mer. Cela dit, il y a quand même eu énormément de choses qui ont été faites depuis 30 ans ou 40 ans, notamment avec les logements sociaux, avec des logements à loyer modéré. Mais l'efficacité des opérateurs aujourd'hui est encore à démontrer.
Isabelle, comment vous avez vécu cette année de dissolution? Vous l'avez senti dans votre vie de chef d'entreprise et dans l'environnement économique dans lequel vous évoluez?
En fait, ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, les chefs d'entreprise s'aperçoivent que des variations politiques très fortes ont effectivement un impact dans la vie économique. Ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a une dizaine ou quinzaine d'années, en fait. Et aujourd'hui, on a au Parlement un tiers du Parlement qui est, je vais dire, révolutionnaire, qui, en fait, met et pointe du doigt les chefs d'entreprise en disant que c'est forcément des gens qui ne pensent qu'à leurs actionnaires et pas forcément aux salariés, ce qui est faux, parce que je crois véritablement que les patrons de PME, notamment, mais aussi les grands patrons, ont des vrais sujets d'intérêt général, autant que les politiques d'ailleurs, de création de la valeur, de création de l'emploi, et c'est quelque chose qui est chevillé au corps. Et aujourd'hui, on a, parmi les parlementaires, au moins 30% qui sont totalement révolutionnaires et contre l'entreprise. Donc effectivement, ça ne peut que créer un climat et un contexte extrêmement défavorable pour l'entreprise.
Jean-Marc, l'année de dissolution, qu'est-ce que vous retenez ? On a bien compris que le moteur de l'investissement était en panne, on a bien compris qu'effectivement il y avait une partie du Parlement qui était anticapitaliste, objectivement, et contre l'économie de marché, et de votre côté.
Oui, écoutez, quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution, tout le monde avait l'air un peu abasourdi. Et tout ça.
Moi, on l'était.
Oui, bien sûr.
Franchement, c'était quand même une grande surprise.
Oui, c'était une grande surprise et tout ça. Moi, je trouvais que c'était plutôt au départ une assez bonne idée.
Vous avez trouvé que c'était une bonne idée.
Oui, ça me faisait penser au fait que lorsque la Banque Centrale Européenne a envoyé des lettres en 2011 à un certain nombre de pays en disant il va falloir reprendre en main votre action publique et notamment vos finances publiques, Berlusconi avait dit, bon écoutez, on ne trouvera aucun homme politique pour faire ça, donc on va passer à un gouvernement qui est un gouvernement technique, et on était allé chercher Mario Monti. Et donc vous vous souvenez, dans nos débats de la matinale, je disais, qui est Mario Monti? Il faut trouver Mario Monti. Et donc je parlais tout à l'heure de François Villeroy de Gallo, qui me paraissait être le profil de Mario Monti.
Je me souviens, vous aviez défendu l'idée.
Je disais, voilà, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, en Italie, on est allé souvent chercher un gouverneur de la Banque Centrale, on est allé chercher Mario Draghi, avant Mario Monti, qui avait été commissaire européen. Et là où j'ai été surpris, c'est effectivement l'incapacité de notre président de la République à aller jusqu'au bout de cette logique qui consistait à dire la classe politique fondamentalement, manifestement, ne veut pas prendre les décisions qui sont les décisions dont on a besoin pour affronter les problèmes que nous avons en face de nous. Et donc, on va faire un gouvernement technique. C'est un peu l'année blanche. Ça aurait été l'année blanche, non pas sur le plan budgétaire, mais sur le plan politique, ce qu'a été le passage de Mario Monti. Et donc, depuis, j'attends toujours Mario Monti.
Mais ça ne règle pas l'impasse politique.
Ça fait un an qu'on est dans une impasse politique, et un an, effectivement, oui. La conséquence de ça, c'est que on aurait soit Monti, soit Cueil, finalement, ce serait pas si mal que ça, parce que Cueil, c'est on fait rien. Là, oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a un gouvernement qui fait des choses. De temps en temps, ils prennent une décision. De temps en temps, ils menacent le pays d'augmenter les impôts. Ils menacent le pays de faire telle ou telle décision. Et donc, je pense qu'effectivement, on est dans une phase où il faut sortir assez vite de cette situation. Parce que, ou bien on a un gouvernement qui ne gouverne pas. Et après tout, c'est pas si mal que ça. On s'en tire pas mal. Tout le monde parle des Belges dans les périodes où il n'y a pas de gouvernement, des Néerlandais dans les périodes où il n'y a pas de gouvernement. Et puis, ou alors un gouvernement qui dit, écoutez, pendant un an, je vais assumer ça. Ça va être, on n'a pas ça. Et donc, je pense qu'un des enjeux, si jamais il y a de nouveau une censure, puisque de nouveau, là, maintenant que le Parti Socialiste a réorganisé à l'issue de son congrès son attitude, s'il y a une motion de censure, aller chercher Mario Monti, c'est la chose que je demande au président de la République.
Bon, ce serait François Villeroy de Gallo, si vous comprenez. Allez-y, Philippe Mutrici, puis Isabelle Bordry.
Pas tout à fait d'accord avec vous sur le côté on peut ne rien faire. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions pour les finances publiques. Il faut au contraire trouver 40 milliards d'euros pour le budget l'année prochaine et probablement 200 milliards à un horizon de 5 ans. Donc là, en ne faisant rien, justement, je pense qu'on n'aura pas la solution. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est que ce n'est pas tellement la dissolution qui est une erreur. Je pense qu'on ne peut pas dire que dissoudre, renvoyer la décision au peuple français, c'est une décision, je pense, qu'on peut éminemment respecter. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est l'absence de majorité. Et puis peut-être surtout l'absence de culture de coalition en France. Les Allemands ont une culture de coalition, aucun parti n'a la majorité absolue en Allemagne. Simplement, nous, en France, on était habitués depuis le général de Gaulle à ce que le Premier ministre ait toujours une majorité. Et le président, il y a eu les deux cohabitations, mais dans les deux cohabitations, même si le président et le Premier ministre n'étaient pas du même bord, le Premier ministre avait une majorité absolue. Et c'est ça qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, mais le pire, c'est qu'on a trois blocs qui ne veulent pas travailler ensemble. qui sont dans une situation d'irréconciliabilité, si je puis dire. Et là, c'est plutôt ça qui inquiète les chefs d'entreprise, plus que la dissolution en elle-même.
Oui, c'est l'instabilité politique qui suit, et on a bien vu que on risque de remettre le couvert avec le budget 26, avec les mêmes difficultés qu'ont pu connaître M. Barnier et son successeur. Allez-y, Isabelle Bordelier.
Et puis, effectivement, pour compléter, à la différence de ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, je ne sais pas si c'est bien, mais le président de la République ou le Premier ministre ne peut pas prendre des décrets toutes les semaines pour prendre des positions, tout d'un coup sur l'âge de la retraite, tout d'un coup sur les tarifs, etc., etc. Et donc, effectivement, on est dans une situation où le Parlement n'a pas de coalition, il n'y a pas de majorité, le gouvernement travaille, mais de toute manière sera effectivement sans retour positif, puisque ça ne sera pas adoubé par le Parlement. Donc on est dans un espèce de statu quo où il ne se passe rien.
Alors, il faut apprendre à vivre avec, hein. C'est ce qu'on peut dire aux chefs d'entreprise. Hein. Bon, il n'y a pas de majorité, il ne faut pas non plus se dire que c'est la fin du monde. Et donc, ça ne doit pas empêcher d'investir, ça ne doit pas empêcher d'aller satisfaire son client, d'aller à l'international. Il y a d'autres pays, Jean-Marc, Daniel l'a cité il y a un instant, qui n'ont pas de majorité. Il n'y a pas eu de gouvernement en Espagne, en Belgique, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Ça n'empêche pas l'Espagne aujourd'hui d'être dans une forme de miracle économique et de se monter très bien.
Oui, mais il y avait une anticipation de stabilité. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne savent pas ce qui va se passer demain. Et dans une atmosphère qui est très anticapitaliste, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et donc, il y a une crainte absolue de si j'investis, je vais être taxé. Si j'embauche, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ça bloque effectivement, notamment les PME.
Est-ce que vous pensez que l'année blanche... Alors, on avait défendu l'année blanche tous les deux un matin, à 7h15, à 7h10, là, dans la matinale de Laure Clausier. J'entends beaucoup d'avis, finalement, assez négatifs. Le dernier en date étant Pierre Moscovici, bon, qui se prononce en tant que premier président de la Cour des comptes pour dire qu'il est opposé à l'année blanche. C'est one shot, vous faites l'année blanche, vous avez un effet cette année-là, mais vous n'avez pas d'effet structurel de long terme avec une année blanche.
Ah, mais ça dépend.
Et c'est vrai que l'argument peut s'entendre.
Non, l'argument est idiot pour moi.
Ah bon?
Et
bon.
Faire 40 milliards d'économies, c'est aussi one shot. Une fois qu'on a fait les 40 milliards, il faut repartir.
Comme l'a dit Philippe,
il peut y avoir des restructurations.
Mais comme l'a dit Philippe, c'est 40 milliards en 26, mais par contre, là, l'horizon à 5 ans, c'est pas 40 milliards à 5 ans.
Oui, donc tout est one shot. C'est-à-dire que l'année blanche, encore une fois, l'année blanche, moi, je cite régulièrement les conclusions du rapport qu'on avait demandé à Michel Pébreau en 2005. Et donc, l'année blanche est issue de ce rapport. C'est la première recommandation. Ce que dit bien le rapport, ça ne veut pas dire année blanche, ça ne veut pas dire qu'on gèle tout strictement au même niveau que l'année précédente. C'était, on dit, les dépenses publiques, c'était 1700 milliards d'euros cette année. L'année prochaine, c'est 1700 milliards. Et puis, on dit au ministère, écoutez, voilà, dites-nous exactement où vous allez faire l'économie, où vous allez réaffecter ces économies. On peut bouger à l'intérieur de l'enveloppe, mais l'enveloppe
on
ne bouge pas.
On est d'accord.
Et je rappellerai aussi que au 19e siècle, alors vous me direz, il y avait un système qu'on appelait la règle de Villèle. Villèle était le ministre des Finances de Charles X et de Louis XVIII. C'était une époque où le pays était gouverné. Et donc, Villèle disait, pour faire un budget, et ça a été appliqué pratiquement jusque dans les années 1880, on prenait les recettes fiscales de l'année précédente et puis on disait, voilà, c'est ce qu'on va pouvoir dépenser. Donc, on avait une enveloppe globale. On allait voir les ministères, alors on disait, voilà, l'enveloppe globale, vous partez donc de cette enveloppe, et puis vous me dites ce que vous devez faire. Donc, il y avait une enveloppe globale qui était affichée. Pour moi, l'année blanche, c'est ça. Et donc, les 40 milliards, en plus, les 40 milliards, on ne sait pas exactement par rapport à quoi, par rapport à une tendance.
C'est par rapport à une tendance.
Au lieu de raisonner de façon différentielle et tout ça, que personne ne comprend, dire, écoutez, c'est 1700 milliards. Bon. 1700 milliards l'année prochaine, et chaque ministère, dans le cadre de ces 1700 milliards, me dit ce qu'il peut dépenser.
C'est exactement ce que dit Madame de Montchalin. Allez-y, Isabelle Bordry. Et puis,
si on fait un peu d'histoire, on était à 500 milliards il y a une cinquantaine d'années en dépenses publiques. Aujourd'hui, on est à 1700 milliards. On a fait donc x10 en à peu près 50 ans. On ne peut pas dire que restructurer soit impossible, alors que la population active est restée à un petit peu progresser, mais pas tant que ça. Donc, il y a un vrai sujet de réorganisation de la dépense. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas des poches à aller chercher d'économies. Et donc, je trouve que dire on fait l'année blanche, c'est une déresponsabilisation totale des politiques. Donc, effectivement, on a dit tout à l'heure que les chefs d'entreprise craignaient les décisions politiques. Alors, effectivement, s'ils n'en prennent pas, ça va peut-être rassurer tout le monde. Mais enfin, on est quand même dans une situation où s'il n'y a pas de décision politique, économique, structurée sur les dépenses du pays, on va quand même dans le mur.
Moi, l'année blanche, ça ne veut pas dire on maintient tout.
Non, mais
tout,
on est exactement. Bien d'accord, non, mais on maintient les 1700 milliards.
On maintient les 1700 milliards.
Mais oui, mais
et donc,
c'est
1700 milliards, écoutez, c'est déjà un effort colossal par rapport aux 40 milliards qui vont se traduire en réalité par une augmentation des 1700 milliards. Parce que dans les raisonnements, donc 1700 milliards, c'est un effort qui est un effort considérable.
Et c'est ce serait un effort supérieur aux 40 milliards.
Moi, j'ai compris que c'était 30 milliards
d'efforts. Et moi, 18. Donc,
attendez, 18 quoi, pardon?
18 milliards.
18 milliards de quoi?
18 milliards d'économies.
On était entre 15 et 30, voilà, entre 15 et 30 milliards d'économies. Donc on n'est pas aux 40 milliards.
Attendez, on s'y perd. Oui. Le chiffre que vous citez, Philippe, c'était l'estimation de ce que l'année blanche pourrait permettre d'économiser.
C'est ça. Voilà. Bah, on est loin des 40 milliards.
Mais on est toujours sur un objectif de 40 milliards.
Par rapport à quelle tendance? Encore une fois, les 18 milliards, c'est 2% des 1700 milliards. Donc, or quand vous regardez effectivement les projections que feront le ministère des Finances, c'est jamais 2% d'augmentation spontanée du budget. C'est de dire, il faut tenir compte de l'inflation qui va être de 10%, puis la croissance qui va être de 10%, donc la déformation va être de 10%. Donc en réalité, c'est totalement arbitraire. Alors que quand vous dites, écoutez, voilà, la somme, c'est pas par rapport à un arbitraire, à des hypothèses, c'est la même somme que l'année dernière, mais ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, vous avez exactement le même euro à dépenser que l'année précédente.
Mais bon, vous partez du principe que vous avez zéro inflation, zéro croissance en 26, et vous, voilà. Allez-y,
moi, ce qui me gêne le plus dans cette proposition, c'est qu'on est dans une fiction. On est dans une fiction sur les dépenses sociales. Moi, je veux bien qu'on dise que le fameux ONDAM, l'objectif de dépenses d'assurance maladie, ne doit pas augmenter. Mais il faut vraiment, je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est-à-dire qu'il va falloir faire beaucoup moins dans certains secteurs, parce que l'ONDAM, on ne le maîtrise pas. On peut toujours dire qu'il va être à 0% l'année prochaine.
Il ne sera pas.
C'est la santé des Français, et on sait que les Français vieillissent et que chaque année, ils dépensent plus en matière de santé. Ou alors, à moins d'avoir des mesures de réduction de remboursement des médicaments, mais là, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans la logique du système. La logique du système qui consisterait à dire on fait une année blanche, on touche à rien et on récupère les recettes, ça ne marchera pas pour les dépenses de sécurité sociale.
C'est sûr. En tout cas, la santé, c'est sûr.
Et c'est ça, c'est ce que j'appelle la fiction. Et vous avez rappelé tout à l'heure la loi Juppé de 96. Depuis 1996, l'État pense qu'il peut contrôler la dépense de l'assurance maladie. Et en fait, non. C'est un échec absolu.
Bon. Ça, il faudra bien. Alors, je sais pas, moi, Abiline Montchalin nous dit que tout va bien se passer. Ils vont baisser la masse salariale de la fonction publique, qu'ils vont fermer des agences et des opérateurs d'État, qu'il n'y aura pas d'impôts sur les entreprises, Isabelle Bordry. La politique de l'offre sera toujours quelque chose d'inscrit, de gravé dans le marbre, et qu'il y aura des niches fiscales, à l'inverse, qui vont probablement disparaître. Taper dans les niches fiscales, ça a du sens, même si c'est une hausse d'impôts qui ne dit pas son nom. Oui, mais bon, si vous faites le bilan d'une niche fiscale, que vous vous rendez compte que, regardez, on a quand même créé des quantités de systèmes de subventions et de niches en tout genre dans la politique du logement, avec les résultats qu'on connaît, qui ont été des résultats inflationnistes. Il y a bien un moment, vous pouvez vous dire, on va faire demi-tour sur certaines d'entre elles.
Moi, je ne critiquerai pas Amélie Montchalin, puisque c'est une ancienne élève de Jean-Marc Daniel.
Voilà.
Déjà, elle a forcément raison. Par contre,
il a fallu le lui rappeler à Jean-Marc, pour qu'il s'en souvienne vraiment.
Concernant les niches fiscales, je trouve qu'il y a deux choses. On manque aujourd'hui, en France, cruellement, de politique d'évaluation fiscale et autre chose,
d'investissement. On l'a vu avec les dispositifs PrimeRénov', leasing social et tout.
Et quand la ministre, effectivement, explique, qui, moi, me laisse absolument pantois, qu'il y a 400 niches fiscales et donc qu'il y en a un certain nombre qui ne bénéficient qu'à une centaine d'entreprises, on marche sur la tête. Donc, il y a effectivement un choc des simplifications qui est absolument nécessaire, en plus d'une réorganisation et de l'efficacité de l'État. C'est essentiel.
Vous avez vu quand même qu'Amélie de Montchalin, elle vous dit, oui, on va taper des niches fiscales, mais on baissera les impôts qui correspondent à ces niches fiscales, de manière justement à contourner l'accusation de faire des hausses d'impôts déguisées.
Oui, mais alors après, il faut voir comment on agit de façon pratique.
Super impossible à gérer.
Oui, on en revient quand même à l'appréciation de la dissolution et à la capacité d'action du gouvernement. Parce que vous vous souvenez que Michel Barnier avait récupéré un budget qui était le budget préparé par les services. Donc il arrive en catastrophe. Bon. Et donc il y avait dedans, moi ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait un poste où on supprimait 4000 emplois à l'éducation nationale.
Oui.
Parce qu'on constatait, on parlait de démographie, on constatait qu'effectivement maintenant, vu la situation de la démographie, il y a des écoles où il n'y a plus de plus de gamins, c'est-à-dire dans l'enseignement primaire.
À Paris, notamment.
Oui. Donc on ferme des écoles. Et si on ferme les écoles, c'est peut-être l'occasion aussi de supprimer les emplois des gens qui enseignaient dans ces écoles. Et donc, hurlement, tout ça, dans le projet qui a été adopté.
Ah oui, mais c'est vache sacrée, bien sûr.
Vache sacrée, car le projet qui a été adopté, au contraire, à l'époque du gouvernement Bayrou, au contraire, là, on a maintenu les effectifs de l'éducation. Et François Bayrou a dit, non, mais c'est une priorité, l'éducation. Donc, il y a un moment aussi où il faut à la fois des règles simples, et puis des gens, c'est pour ça l'année blanche c'est simple,
oui, c'est
des
ça,
gens enfin, qui sont ça. Capables de dire, écoutez, c'est Mario Monti, notre président du conseil c'est Mario Monti, effectivement à l'Assemblée nationale il y a un tiers de bolcheviques, il y a un tiers de nationalistes, il y a tout un tas de gens qui sont en train de préparer la présidentielle de 2027. Ils font leurs affaires entre eux, et puis un gouvernement technique légitime. Il s'agit de faire adopter quand même le budget, parce que le budget, l'acte fondateur de la démocratie, c'est de faire voter le budget par un Parlement.
Mais vous l'avez bien dit, faire voter.
Voilà.
Faire voter.
Je pense qu'on attendait.
Allez-y, Philippe Boutroussi.
On attendait une position du gouvernement en faveur de la politique de l'offre. Ça manquait depuis un an. Donc c'était un peu ce que nous disaient les chefs d'entreprise, et notamment dans les enquêtes dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Mais comme le dit Jean-Marc Daniel, ou comme vous le dites aussi, ça ne veut pas dire qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale pour la voter. Mais déjà en termes d'intention, c'est pas mal. Je voudrais juste revenir sur les niches fiscales dont on dit souvent dans ce débat, et vous allez voir que ça va revenir très fort, que pour les entreprises, c'est 220 à 260 milliards.
C'est un chiffre CGT, ça. Hein.
C'est un chiffre CGT.
Le chiffre couramment utilisé, c'est plutôt dans les 140 au total, y compris les allègements de cotisations.
Et la différence entre les deux, c'est la prise en compte d'impôts sur la consommation, comme par exemple la TVA 5,5, que certains mettent comme un avantage aux entreprises, alors que c'est un avantage pour le consommateur, et ça permet de monter au-delà de 200 milliards. Mais est-ce que vous savez combien sont prélevées les entreprises chaque année? Moi, je me posais la question, et j'ai trouvé la réponse dans un rapport de la Cour des comptes de 2023. C'est 960 milliards de prélèvements.
Y compris les prélèvements obligatoires, cotisations. Hein.
Y compris les prélèvements cotisations. Y compris l'imposition sur le revenu qui est prélevée par les entreprises pour le compte de l'État.
En fait, y compris le prélèvement à la source.
Mais c'est quand même, si on met d'un côté la TVA et qu'on monte à 260 milliards d'aides, il faut mettre de l'autre côté l'impôt sur le revenu, sinon ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez quand même qu'en France, 960 milliards sont prélevés sur les entreprises. Les entreprises sont le premier collecteur d'impôts de l'État. Il y a 224 impôts collectés par les entreprises.
224.
C'est dans le rapport de la Cour. C'est dans le rapport de la Cour des comptes. Ça, c'est la complexité. C'est ce que vous mentionniez il y a un instant. C'est la complexité administrative française, et c'est ces petits impôts qui vont toucher quelques contribuables, ou parfois c'est l'inverse, c'est des crédits d'impôts qui vont concerner quelques bénéficiaires. Et c'est cette énorme complexité qu'on a sur la table.
En fait, il nous faut
justement Doge. On fait la BPI après. Oui, pardon, allez-y.
Il nous faudrait Doge, peut-être pas avec Elon Doge, Musk, oui. Mais peut-être avec Mario Draghi.
Bon, il nous faut un Monti,
Jean-Marc Daniel.
Voilà. On a un peu plus de 5 minutes. Vous avez commis une étude sur l'intelligence artificielle et les PME qui résonnera parfaitement avec le débat qu'on a eu ici même jeudi 5 juin où on a fait une spéciale tech pour les 25 ans de quoi je me mail.
Oui.
Philippe.
Alors, écoutez, l'intelligence artificielle, quelle est la part des PME? Cette fois, ça va être PME et ETI qui l'utilisent. Donc, le chiffre, il est facile à retenir, c'est un tiers.
Un tiers.
Très précisément, c'est 32%. En ajoutant l'intelligence artificielle générative et les autres formes d'intelligence artificielle qui préexistaient, qui continuent d'exister d'ailleurs. Faut pas penser qu'il y a que l'IA générative, hein. Donc, c'est 32%. Ce qu'on voit dans cette étude, c'est quelque chose d'assez positif. C'est qu'on mesure la digitalisation des PME et ETI depuis une dizaine d'années maintenant. Et on part de notre premier point de mesure, c'était en 2017. Et en 2017, il y avait 85% des chefs d'entreprise qui disaient que ça n'était pas stratégique.
En 2017,
disait la digitalisation. On parlait de digitalisation.
Tous les sujets numériques, oui.
Voilà, tous les sujets numériques, c'était absolument pas stratégique. Aujourd'hui, quand on pose la question, le rapport s'est inversé. Et quand on leur demande si l'intelligence artificielle est un sujet qui peut mettre en péril leur entreprise, ils sont 58% à dire oui. Donc, il y a une prise de conscience massive que là, on est vraiment devant une rupture technologique et que les chefs d'entreprise ne peuvent pas la rater.
Alors, donc, c'est les deux. Mettre en péril, ça veut dire si vous ne l'adoptez pas, vous le
l'entreprise va disparaître. L'entreprise risque de disparaître à un horizon de 3-5 ans. Donc, c'est une prise de conscience massive. Alors, pourquoi on est qu'à 32% en termes d'adoption? Parce qu'il y a encore pas mal de freins. Donc, alors, ce taux d'adoption, on l'a quand même doublé en un an. Hein. Donc, on était à la moitié il y a un an. Donc, ça progresse très vite. Mais il y a encore des freins qui font qu'on n'est pas une majorité qui l'utilise. Le principal frein qui est mentionné, c'est le coût. et puis la peur des fuites de données. Alors le coût, ça peut sembler un peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont gratuites, mais les solutions gratuites, elles nous permettent à nous d'aller faire générer des vidéos, des images ou des textes assez facilement. Mais sur une entreprise, on peut pas se contenter de ces solutions gratuites. Oui.
Voilà. Et ça, c'est Isabelle Bandré. Un vrai point. C'est-à-dire que aujourd'hui, et même quand vous interrogez les gros éditeurs et des gros pourvoyeur en fait de solutions, il n'y a pas encore de chiffres réels sur la rentabilité d'une IA.
Ah.
Alors aujourd'hui, vous avez des chiffres sur l'efficacité du temps de travail. Il commence à y avoir un peu de l'efficacité du temps de travail. Par exemple, dans la relation client, sur toutes les plateformes de relation client, lorsque vous utilisez une IA, vous pouvez avoir accès beaucoup plus rapidement, quand vous êtes le gestionnaire, à l'ensemble du dossier et à la synthèse du dossier. Donc là, vous gagnez du temps en termes de relation client. Vous pouvez aussi écrire de manière plus automatisée des emails, donc ça va beaucoup plus vite. Mais aujourd'hui, le coût de ces solutions est encore extrêmement cher, et donc dans la rentabilité économique, c'est très difficile de pouvoir prendre des décisions d'investissement aujourd'hui dans ce secteur-là, parce que vous ne savez pas exactement ce que cela va générer pour vous.
Dernier mot.
Non, mais c'est bien d'entendre la réalité de comment c'est perçu par les gens et vécu par le porte-monaire.
Ça me fait penser à un profilage qu'on a fait sur notre population de répondants, à peu près 1300 répondants, PME-ETI, et on les a profilés en fonction de leur utilisation de l'intelligence artificielle, et on trouve quasiment 4 quarts, au pourcentage près, on est pas loin de 4 quarts. On a 2 quarts, donc une petite moitié, qui sont très enthousiastes vis-à-vis de l'IA, mais dans un des quarts de cette moitié très enthousiaste, il y en a qui ne sont pas encore passés hein, et qui ne savent pas par où commencer. Et puis, on a 2 quarts qui sont soit bloqués, soit carrément réticents. On a 1 quart de réticents qui ne souhaitent absolument pas utiliser l'intelligence artificielle. Et puis, on a 1 quart de bloqués. Et ceux-là, ils ne savent pas par quoi commencer. Et en fait, par quoi commencer, vous parliez de la gestion de relations clients, ça commence déjà par maîtriser ces données, gérer ces données. Et là, on a une PME-ETI sur 2 qui ne gère pas encore ces données. Et pour nous, ça semble être le point de passage obligatoire pour aller vers l'IA.
Il y a un vrai sujet de souveraineté, de confidentialité des données et de protection du consommateur. Puisque aujourd'hui, lorsque vous éduquez une IA avec votre CRM, c'est-à-dire votre base de données client, vous avez clairement des risques de fuite. Et donc, la protection du consommateur est un élément clé. Et c'est vrai que pour les PME-PMI, il y a cette problématique du coût, il y a la problématique de formation, et puis il y a la problématique d'accès à ces nouveaux logiciels qui évoluent en permanence. Mais effectivement, cette notion de souveraineté, qui est d'ailleurs revenue beaucoup dans le débat depuis quelques semaines au sujet de l'IA, est absolument prépondérante, et la protection du consommateur, de la vie privée des consommateurs, est absolument clé.
C'est votre métier, ça.
Absolument.
On a fini, Jean-Marc. Je ne vais pas vous demander si vous avez adopté l'IA au théâtre, ce n'est pas le sujet.
Pas du tout.
Voilà.
Je ne sais pas si c'est intelligent, mais ce n'est pas artificiel.
J'ai pas eu le temps de vous demander si vous aviez peur du FMI aux portes de Paris. Bon, j'avais lu d'ailleurs que le FMI n'a pas les moyens de s'occuper de la France. S'il devait le faire, c'est trop cher.
Et puis le FMI, il est là pour régler les problèmes de balance des paiements courants. Nous avons des problèmes surtout de finances publiques.
Ben oui.
Et donc, ce n'est pas le FMI qui devrait s'en occuper, c'est notre Parlement et notre gouvernement. Il faut trouver Mario Monti, quoi.
Voilà. Sinon, c'est Bruxelles qui viendra. Enfin, c'est la BCE.
C'est Bruxelles. Mais vous savez que le on vit avec le théorème de Jacques Chirac. Ils vont pas nous envoyer des chars. Ils en ont pas. Donc.
Mais peut-être des drones.
Mais peut-être des drones Renault. On n'a pas eu le temps des drones Renault. Mais je l'avais pas mis dans les sujets d'ouverture pour éviter encore de balancer des sujets dont on n'aurait pas le temps de parler.
Ouais, voilà.
Je suis quand même coutumier du fait, vous le savez. Bon, merci Isabelle Bordet d'avoir été là.
Merci beaucoup.
Jean-Marc Daniel, 21h au théâtre de Poche.
Tous les lundis.
À quoi faut-il s'attendre en économie? Et Philippe Mutrici pour la BPI. On se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.